Nous sommes dans le temps de l'Avent, nous nous préparons à célébrer Noël, à célébrer la naissance du Seigneur Jésus, Dieu fait homme. Et je vous invite, avant que nous ne parlions dimanche prochain plus spécifiquement du Seigneur Jésus, de parler de ceux qui ont été là pour l'accueillir, de ceux qui ont été là comme les acteurs de son plan, de sa venue. Et nous allons parler de Marie et de ceux qui sont autour d'elle au moment où les temps s'accomplissent. Je vous invite donc à lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 56. Luc 1, versets 26 à 56. Au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. » Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie se leva, s'empressa d'aller dans les montagnes de la ville de Juda. Dans une ville de Juda, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de biens les affamés, renvoyer à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, vers Abraham et sa descendance pour toujours. » Jusqu'ici, notre lecture. Comment mettons en mouvement un projet important et longtemps attendu? Nos sociétés aiment orchestrer le suspense avec des mélanges d'effets d'annonce, d'informations distillées au compte-gouttes, quelques doses de secrets avant le dévoilement tant attendu. C'est ce que nous avons vu avec la COP21 qui a mêlé tous ces ingrédients. Un départ en fanfare, des négociations entre séances ouvertes et rendez-vous feutrés, un blackout dont rien ne filtre en fin de parcours, et finalement le dévoilement tant attendu de l'accord résultant de ce parcours. Le projet de Dieu de venir parmi nous pour réaliser son salut est sans conteste l'action la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Le Seigneur l'a préparé de loin. Il a lui aussi distillé ses promesses par petites touches au fur et à mesure de l'histoire du peuple d'Israël. Il a longtemps à l'avance annoncé les contours de ce qu'il allait faire. Il a semé des indications, parfois difficiles à comprendre avant, mais éblouissantes de clarté après leur accomplissement. Il a invité aussi son peuple à attendre, à espérer son intervention, à croire, à rester fidèle même dans les temps de l'attente. Il a agi ainsi, non pas pour orchestrer un plan médiatique savamment calculé, mais pour s'attester lui-même comme le Seigneur de l'histoire, comme le Dieu qui conduit son plan, qui sait faire aboutir au temps qu'il a choisi ce qu'il a lui-même annoncé. « C'est moi qui suis le premier, dit le Seigneur, c'est moi qui suis le dernier. J'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je les ai fait entendre avant qu'elles n'arrivent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faites ». Ésaïe 48. Un plan annoncé, un plan mis en œuvre par le Seigneur. Et pourtant, quand arrivent les temps de l'accomplissement de ce projet, pas le moindre effet spécial. Tout se passe dans l'humilité, la confidentialité même. Mais une confidentialité riche d'une profondeur magnifique. C'est ce qui a frappé Luc lorsqu'il a enquêté sur ces événements. Et il restitue de manière très sensible ce sentiment très personnel, cette attention de Dieu aux personnes dans les portraits qu'il nous fait, du petit groupe qui a vécu de l'intérieur le frémissement des temps. Avant de parler de la naissance de Jésus, Luc prend le temps de nous décrire non seulement Marie et Joseph, mais aussi Élisabeth, Zacharie, puis Siméon et Anne. Il y a là un groupe de personnes qui sont unies par une profonde parenté spirituelle. Ce qui les caractérise, ce n'est pas la puissance ou la grandeur, mais leur fidélité à Dieu, leur attachement à ses commandements, à ses promesses. Élisabeth et Zacharie vivent cette fidélité malgré l'épreuve de la stérilité. Anne la vit au cœur de son veuvage. Siméon, quant à lui, est au terme de son pèlerinage et l'espérance de la venue du Messie reste sa seule raison de vivre. Ils ont une même attente de Dieu, de son intervention. Mais ils semblent si démunis, si insignifiants. Ensemble, et avec d'autres bien sûr, ils incarnent ce que l'on peut appeler les pauvres du Seigneur. Cet Israël de l'humilité, sans moyens, sans considération, mais qui vivent dans l'humble fidélité à Dieu et dans l'attente de ses promesses. Les prophètes avaient décrit sous ses traits le peuple qui hériterait des promesses. C'est un reste, un petit groupe, humble et fidèle, qui serait l'héritier des promesses. C'est ce qu'annonçait Sophonie en particulier. « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Sophonie 3, verset 12. Et c'est à ce reste qu'est identifiée Marie. La toute première salutation que l'ange lui adresse fait écho aux promesses du prophète Sophonie, à ce peuple humble qui trouve son refuge dans le Seigneur. « Réjouis-toi, fille de Sion, ne crains pas, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Marie est désignée ici par l'ange comme héritière de ses promesses. « Ne crains pas, le Seigneur est avec toi, il agit. » Mais avant cela, il y a d'autres notations qui, elles aussi, disent le souci du Seigneur pour ce peuple humble. Ces mots tout simples. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, un obscur village, dans une région loin des lieux qui comptent ou dont on attendait quelque chose. Jérusalem, le temple, Juda, Bethléem, voilà les lieux auxquels un avenir était prophétisé. Mais Nazareth en Galilée, que peut-il venir de bon de Nazareth ? C'est ce qu'on disait là-bas à l'époque. C'est comme parler à un Parisien branché de la Meuse ou de Charleville-Mézières. J'espère qu'il n'y a personne qui est de ce coin-là. L'annonce de la naissance de Jean-Baptiste qui préparait les chemins du Seigneur a eu lieu à Jérusalem, a eu lieu dans le temple, à l'heure de la prière publique, auprès d'un prêtre dans l'exercice de ses fonctions. À Nazareth, l'ange apparaît à une jeune fille, chez elle, hors de tout cadre religieux ou institutionnel. Elle est seule. Elle n'a aucun rapport qui lui permettrait d'envisager d'avoir une descendance, pas encore en tout cas. Le mariage qui lui permettrait de fonder une famille est encore à venir. Pas vraiment ce à quoi on accorde considération pour incarner le projet de Dieu. Le Seigneur porte son regard sur les humbles et non sur les puissants. C'est ce que chante le Magnificat, le cantique de Marie, tout vibrant de cette joie. Il a renversé les puissants de son trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde. Ce chant évoque celui d'Anne, la mère de Samuel autrefois. Anne méprisée, dénigrée par sa rivale parce qu'elle n'avait pas d'enfant, mais délivrée par le Seigneur en réponse à sa prière. Et nous sommes aussi dans la ligne du psaume 146 que nous venons de lire. Marie s'inscrit dans cette lignée-là. Avec elle, comme elle, les humbles, les sans force, les sans grade se découvrent sous la bienveillante attention de Dieu. « Moi, je suis pauvre et indigent, » dit le psaume 40, « mais le Seigneur pense à moi. » Et Marie s'émerveille que Dieu a ce regard-là. Sa louange invite à une confiance en ce Dieu-là. Elle fait de son expérience non pas une grâce unique réservée à elle seule, mais une illustration de la faveur de Dieu pour tous les humbles. Si l'on reçoit ce témoignage de Marie, il n'y a aucune raison de penser, par exemple, que nous aurions besoin de son intercession parce qu'elle au moins nous est proche. Le message, la faveur faite à Marie, c'est justement que Dieu lui-même est proche par sa bienveillance, par son attention de chacun de ceux qui sont humbles. Et Jésus illustrera cette proximité plus encore, nous révélant le caractère intime de notre Dieu, infiniment proche et faisant tout pour venir jusqu'à nous. Dieu choisit donc souvent les choses faibles pour confondre les fortes. C'est ce que dit la réalisation de son grand plan au travers de ces hommes, de ces femmes fidèles dans leurs limitations. Mais lorsque Dieu fait ce choix, immanquablement, il parle au singulier. Et il dit « tu » comme à Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Cette grâce au singulier est un privilège. C'est ce que relève Élisabeth. « Tu es bénie entre toutes les femmes, » dit-elle à Marie. Par sa mission unique, Marie est distinguée. En elle se réalisera le grand songe féminin d'Israël, devenir la mère de l'unique sauveur, du fils de la promesse, le fils de David promis par Dieu. Ce sauveur, Élisabeth l'appelle « mon Seigneur ». Elle souligne ainsi le caractère divin de sa fonction, mais elle relève en même temps le privilège pour Marie d'être la mère de ce Seigneur. Quel accomplissement pour une femme, pour une mère. Mais ce qui frappe chez Marie, c'est le sens aigu que tout est de Dieu, que tout cela est cadeau et merveille d'étonnement. Le sujet de son Magnificat, c'est Dieu. Marie vit pleinement la grâce qui lui est faite, mais cette grâce n'est pas centrée sur elle-même, elle l'élève tout entière vers Dieu. Il a porté son regard sur moi, il a fait pour moi de grandes choses, il a élevé les humbles, il est venu en aide à Israël, son serviteur. Il a agi comme il l'avait dit à nos pères. Là où on lui attribue des privilèges, Marie chante le Seigneur et magnifie son action. Mais Marie ne nie pas pour autant son bonheur. Elle ne nie pas que ce qui lui arrive est absolument unique et que son privilège la distingue. « Toutes les générations, dit-elle, me proclameront bienheureuse. » Lorsque Dieu nous fait grâce, et lorsqu'il nous fait grâce au singulier, comme il le fait pour Marie, il nous dit la valeur que nous avons à ses yeux. Et s'il nous dit « Tu as du prix à mes yeux, je te choisis pour ceci, pour cela », c'est pour que nous recevions ce message, c'est pour qu'il nous affermisse. Et c'est ici ce que vit Marie aussi dans une belle simplicité. Elle ne retient ni sa joie ni son bonheur d'être celle à qui le Seigneur fait grâce. Apprenons-nous aussi à donner tout leur cours en nous aux bienfaits que Dieu nous accorde et par lesquels il nous dit que nous comptons pour lui. Lorsque Dieu nous fait du bien, c'est nous qu'il vise, même si ce bien peut rejaillir plus loin que nous, tout comme c'était le cas de Marie, où tout le plan de Dieu était en cours. C'est bien Marie que Dieu a voulu pour être la mère de son Fils, son unique, selon son humanité. C'est bien Marie que Dieu a voulu, que le Père a voulu, pour donner à Jésus certains de ses traits humains. En cela, elle est et restera toujours unique, bienheureuse et éblouie de cette grâce. N'ayons pas peur de penser que Dieu puisse nous vouloir du bien à nous plus spécifiquement. N'ayons pas peur de lui demander même de nous faire du bien si nous avons besoin de son secours. Acceptons que Dieu puisse nous dire « Je t'aime, toi ». Ne rejetons pas ses bienfaits ou le salut qu'il nous offre par une sorte de fausse pudeur qui dirait « Surtout pas moi plutôt qu'un autre ». Toi, suis-moi. La grâce de Dieu est donnée de manière particulière. La grâce de Dieu et son appel prennent leur consistance en se personnalisant. Ce ne sont pas les généralités qui disent la grandeur de Dieu ou de son action. C'est la somme des actions personnelles, individualisées du Seigneur. Voyez Marie, elle chante le Dieu qui élève les humbles et qui rassasie les affamés, mais ce n'est pas une généralité. C'est une parole portée par ce qu'elle a reçu, elle, la première. « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses », dit-elle d'abord. Et c'est au travers de ce que le Seigneur a fait pour elle, de manière individuelle, qu'elle dit ce que le Seigneur fait de manière large. C'est lorsque le Seigneur individualise son action en un lieu, en une personne, en une autre, que l'on peut découvrir ce qu'est son œuvre globale. Ne nous contentons pas, nous non plus, de généralité en parlant de Dieu. Ne disons pas simplement que le Seigneur aime tous les hommes mais veut leur faire du bien. Veillons à préserver, comme ici, le singulier. Le Seigneur m'aime, veut me faire du bien. Ou encore, ne disons pas simplement « Le Seigneur est venu pour sauver les hommes ». Mais rappelons que cela veut dire « Le Seigneur est venu pour me sauver ». Ou « Le Seigneur a le souci des couples et des familles ». Le Seigneur a le souci de mon couple, de ma famille. Ou « Le Seigneur vient rejoindre les gens dans leurs difficultés ». Le Seigneur veut me rejoindre dans mes difficultés. La grâce, telle qu'elle apparaît ici, est une grâce qui se dit au singulier. Elle entre dans un plan large, bien sûr, mais elle se dit au singulier. Et cette grâce au singulier, lorsqu'elle nous touche, nous élève et nous rend tout petits en même temps. Écoutons Marie. Il a porté son regard sur son humble servante, dit-elle. Tout à son bonheur, oui, mais rempli en même temps du sentiment d'être absolument trop petite pour un tel bienfait. Pourquoi moi ? Comment moi ? Il y a là un double mouvement lorsque l'on réfléchit à la grâce de Dieu qui nous atteint. Un double mouvement, un dialogue qui n'est jamais achevé entre la valeur que Dieu nous donne en nous faisant grâce et la question que nous pose cette valeur reçue de Dieu. Dans ce dialogue jamais fini, jamais résolu, on découvre ce qu'est la gratuité. On découvre le vertige de cette gratuité et la douceur d'être fondé en elle. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, chantons cela, c'est un éblouissement magnifique. C'est un éblouissement, mais c'est aussi appelé à être une force formidable pour l'avenir, une force pour se projeter plus loin quand Dieu nous a fait du bien. Écoutons Marie, le Seigneur Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur tous ceux qui le craignent. Marie ne reste pas au constat de la bonté pour elle ici et maintenant, mais cette bonté de Dieu pour elle la pousse à dire « Mais oui, le Seigneur est bon de génération en génération sur tous ceux qui le craignent. » Elle ouvre un avenir, cette bonté de Dieu. C'est que les actes de Dieu reflètent sa personne, reflète son caractère. La grâce reçue révèle un Dieu de grâce. Et cela, c'est une formidable espérance. Cela donne un tout autre regard sur la vie. Car l'irruption de la grâce, toujours possible dans notre vie, cela veut dire tout simplement que notre vie n'est jamais fermée. La grâce invente ses voies « libres et hardies », dit France Quéré dans un commentaire sur ce texte de Marie. « Aucune fatalité, aucune grisaille ne peut rien contre ces chemins que la grâce de Dieu peut ouvrir si elle est là, agissante, venant de Dieu dans notre vie. Notre vie ne peut être couverte si Dieu a fait pour nous de grandes choses. Elle doit rester ouverte si nous voulons honorer le fait que Dieu a fait pour nous de grandes choses, ouverte et accueillante aux bontés de Dieu qui peuvent nous être accordées, ouverte et aux aguets de ces bontés de Dieu, parfois dans l'attente, exigeante, certes, mais jamais fermée, car la grâce qui vient de Dieu invente ses propres chemins. Et son irruption ne dépend ni de celui qui va, ni de celui qui court, ni de ce qui a été, ni de ce qui semble devoir continuer et être intangible. Dieu fait grâce, et parce que Dieu fait grâce, il n'y a pas de fatalité. Dieu fait grâce, et parce que la grâce est toujours possible, nos vies restent ouvertes, un avenir reste là. La grâce est source d'espérance, parce que Dieu est le Dieu qui agit librement. La grâce au singulier donc, et tout ce qu'elle signifie pour notre vie, de fondement, de reconnaissance, d'attachement personnel de Dieu à nous, d'espérance semée pour notre vie. Mais cette grâce au singulier est aussi un appel au singulier. La vie de Marie ne sera plus la même à partir de la grâce qui lui est faite. Elle deviendra mère par une intervention créatrice de Dieu en son sein, mais cela bouleversera tout pour elle. Ses projets en seront affectés. L'avenir qu'elle s'était imaginé sera bien modifié. Sa relation avec Joseph, son fiancé, sera mise à l'épreuve. Mise en danger même, il faudra faire confiance, il faudra s'engager. Ce ne sera pas toujours de tout confort. Marie et Joseph devront sortir des chemins tout tracés qu'ils s'étaient peut-être faits dans leur rêve de bonheur. Ils devront accepter, pour entrer dans le projet de Dieu, de frayer des routes dont ils n'auront pas toute la maîtrise, dont ils ne sauront pas ce qu'elles leur réserveront, ni où elles les conduiront. Et Marie questionne un peu pour savoir, pour comprendre ce qui est devant elle. Mais bien vite, on la voit adopter une toute autre attitude que de vouloir tout savoir ou tout maîtriser. Elle a cette parole magnifique : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et c'est ici, après la grâce au singulier, le consentement au singulier. Le consentement dans l'ouverture, dans la confiance, dans l'abandon aussi d'une certaine façon, car se mettre à disposition, comme le fait Marie, c'est un peu s'abandonner. Mais à un abandon choisi, ancré dans la confiance et dans l'attente de l'action de Dieu, ancré dans l'attente de la réalisation de sa parole, ancré aussi dans le désir de participer à quelque chose de plus grand qu'une simple trajectoire construite autour de soi-même, de ses propres projets, de sa propre maîtrise des choses. Marie a consenti à la grâce qui lui a été annoncée. Elle a dit oui à la mission qui allait être la sienne. Élisabeth le relève dans sa situation. Bien heureuse celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Dans la bouche d'Élisabeth, cette parole a quelque chose de pathétique, car non loin d'elle, juste à côté d'elle, dans sa maison, il y a Zacharie, son mari, qui lui n'a pas cru à la parole de l'ange qui lui était apparu dans le temple lors de son service à Jérusalem. Et Zacharie est là, dans sa maison, mais muet, privé de toute expression, jusqu'au jour où viendra l'accomplissement de ce à quoi il n'a pas cru. Il reste un moment sur la touche, comme à l'écart. Il retrouvera ensuite son rôle par la grâce de Dieu. Mais pour l'instant, il ne participe pas à ce qui se construit. Marie, elle, a cru. Elle a cru une foi qui dit oui. Elle a ajouté à la grâce au singulier le consentement au singulier. Je suis la servante du Seigneur, me voici, Seigneur. L'histoire de Noël nous parle de la manière la plus bouleversante de l'engagement de Dieu pour nous, de la fidélité de Dieu à ses promesses, de sa grâce, de son amour, au singulier comme au pluriel. Mais cette histoire nous dit aussi l'importance des oui que nous avons à dire, que nous avons à renouveler concrètement dans l'action, dans le don de nous-mêmes, pour prendre part à ce que Dieu fait. Bien des gens attendaient, plus ou moins globalement, plus ou moins concrètement, attendaient que Dieu agisse pour son peuple. Marie, Joseph, et comme tant d'autres avant eux, comme tant d'autres après eux, ont dû faire plus que de bien vouloir que le plan de Dieu se réalise. Ils ont dit oui. Il a fallu dire oui, dire « me voici », ajouter à la grâce le consentement. « Je veux entrer dans ce que tu fais. Alors oui, Seigneur, me voici. » Et le plan de Dieu s'est réalisé en passant par ces oui simples, ces oui personnels, ces oui conscients de l'amour de Dieu qui est premier, mais ces oui engagés, déterminés. Quelle sera notre réponse aujourd'hui, demain, à la grâce de Noël ? Amen.